Je suis très content d'être avec vous ici, habiter une belle région. C'est cool de pouvoir aussi voir que Dieu a ses enfants dans tous les coins. Hein? Puis que vous êtes appelés par Dieu à être ici pour élever un autel de louange qui va bénir cette région, ce pays. En plus, vous avez deux pays là qui se mélangent, qui se rencontrent. Vous bénissez deux pays d'un coup. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui font la venue, la navette d'un pays à l'autre. Ben, c'est une bénédiction, je crois. Il faut le prendre comme ça. Donc, en quelques mois, je me présente. Donc, je travaille depuis 30 ans avec Jeunesse en Mission en plein temps. Mon appel, c'est de servir Dieu dans la louange. C'est ça que j'ai reçu, que j'ai compris. Ça m'a pris un petit peu de temps pour le comprendre. Je ne l'ai pas compris tout de suite. Mais quand je l'ai compris, j'ai essayé d'entrer dans cette démarche-là. J'ai d'abord servi dans mon groupe de jeunes, où je me suis converti à Yverdon, en Suisse. Et puis ensuite, j'ai servi dans plusieurs églises. Et puis après... un temps de préparation, de formation. J'étais prof de musique, j'ai enseigné dans les écoles, dans le canton de Vaud. Dieu m'a appelé à le servir, donc j'ai tout quitté. Ma femme était institutrice, on a tout laissé, puis on est parti à plein temps en mission. Et depuis 30 ans, ben, on voyage beaucoup, surtout dans les pays francophones. J'ai fait une trentaine de pays différents où j'ai pu enseigner la louange ou diriger des moments de louange, encourager des équipes. Je vais souvent au Québec, donc c'est une joie de voir Philippe. J'aime beaucoup le Québec, et puis aussi en Afrique, et dans les Antilles, et en France. Très souvent en France, pardon. Donc, le week-end passé, j'étais à Paris. Il y a 15 jours, j'étais au Havre. En 3 semaines, je vais à Lille. Et je crois que la France a vraiment besoin de nos prières, et que la louange monte aussi de ce pays. C'est une joie. J'ai 4 enfants. Mes 4 enfants sont engagés avec Dieu, ils suivent le Seigneur. Mathieu a 30 ans, il est né le premier mois de notre première semaine dans la mission. Et puis il est ancien dans l'église, il joue de la batterie. Siméon, qui a composé le chant avec moi le dernier, il joue de la guitare, il conduit la louange dans l'église. Il compose des chants, il a son propre groupe de louange, il s'appelle Sphère. Ils font de l'électropop praise, voilà. Et puis, ils touchent bien la jeunesse en Suisse romande. Ils ont joué à la RJ, à différents événements. Le troisième, Nathan, il joue de la basse. Donc, j'ai l'orchestre complet à la maison. Et puis, on joue dans l'église. Demain, on va jouer à l'église. C'est pour ça que j'ai pas pu rester avec vous, mais je viendrai peut-être une autre fois. On joue ensemble. Ma femme chante. Les trois gars m'accompagnent. Et c'est beau de pouvoir louer Dieu en famille. Ça fait aussi des chocs de culture, de style, de musique. Et puis, on mélange bien nos styles ensemble pour essayer d'amener quelque chose qui peut toucher aussi tout le monde. Puis, ma petite dernière, qui a 19 ans, elle est en ce moment en mission. Elle a fait une école de disciples avec Jeunesse en Mission. Elle est en ce moment en mission en Jordanie. Et puis, elle va rentrer. Puis après, elle va commencer une école de vétérinaire. Alors, elle aime la danse. Elle aime aussi chanter. Pour le moment, elle n'est pas impliquée directement, mais elle participe bien au groupe de jeunes. C'est une joie de servir Dieu en famille. De voir que Dieu bénit la famille et que Dieu aime la famille, aime les générations. C'est ça que je trouve qui est puissant aussi dans la louange. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire de voir que Dieu y met des générations ensemble pour le louer. Je me posais souvent la question, je me dis, mais si on allait écouter ce que les gens écoutent à la maison, dans leur, bon maintenant c'est plus dans une discothèque, mais dans leur ordinateur, dans leur téléphone, il y en a qui écoutent Aznavour, il y en a qui écoutent Johnny, puis il y en a qui écoutent Louane ou les nouveaux chanteurs actuels, il y en a qui écoutent du classique, d'autres qui écoutent du rock, et pourtant, avec des styles différents, on arrive à être tous ensemble et de louer Dieu. Mais c'est un défi, hein? C'est justement un défi à cause de ces différences de style, de goût, et puis d'époque aussi. Mais en même temps, la louange est extraordinaire parce que ça nous met tous ensemble pour pouvoir faire quelque chose en génération, être unis et puis se tourner dans la même direction. Et la seule chose qui peut nous réunir, c'est justement Dieu, quoi, au travers de son Saint-Esprit, c'est pas le style de musique. Si on s'achoppe juste sur un style, on va pas y arriver. Mais si on s'accroche à Dieu, si on l'aime, si on se tourne vers lui, alors il va nous unir, il va nous mettre ensemble. Et par moments, ça sera les jeunes qui vont diriger, par moments, ça sera les plus anciens, on va faire des mélanges. Mais l'Esprit de Dieu, ce désir de glorifier Dieu, va nous permettre de le louer ensemble. Et je crois vraiment à l'église multigénérationnelle. Alors moi, je fais partie de l'église d'Échalon, c'est une petite église dans le canton de Vaud. On est à peu près 250 au culte. Et puis, on a un bâtiment qui est trop petit, donc on a des projets d'agrandissement. Alors, je sais que vous avez aussi des projets. Donc voilà, que Dieu nous aide tous hein, dans ces défis, parce que c'est des grands défis. Mais on veut faire de la place pour accueillir plus de monde, surtout ceux qui ne le connaissent pas encore. Parce que le but, et j'aime dire ça souvent aussi, la louange, c'est génial de pouvoir louer Dieu, mais on se dit, mais il y a tous ceux qui ne sont pas là, qui devraient être avec nous, n'est-ce pas? Il y en a plein autour de nous, nos amis, nos collègues, même des fois des gens de notre famille. On se dit, mais ce serait tellement bien s'ils pouvaient louer Dieu avec nous. Donc il faut qu'on fasse de la place pour que beaucoup plus puissent encore louer le Seigneur et donner leur place, hein, donner leur louange, leur chant au Seigneur. Alors Jacques m'a donné plein de thèmes passionnants, parce que c'est un sujet qui me passionne aussi, que je creuse depuis longtemps. J'enseigne dans des écoles de louange pendant une semaine sur le sujet. Donc en une journée, je ne vais pas arriver à tout couvrir, mais j'espère vous donner les choses qui sont importantes pour vous. Alors le premier thème, c'est louange de l'Ancien et du Nouveau Testament. Juste ça, ça peut prendre une journée. Hein, mais je vais l'aborder un petit peu, le survoler, et puis vous donner quelques pistes sur les fondements importants. Alors dans l'Ancien Testament, le premier texte que je relève souvent, qui est très important, c'est Genèse 32. C'est l'histoire de... C'est la première fois où il y a le mot « adorer » dans la Bible. Donc c'est intéressant de chercher pourquoi il est là, juste à ce moment-là. En fait, c'est l'histoire d'Abraham qui va offrir Isaac en sacrifice. Et avant de monter sur la montagne avec son fils, il dit « Restez ici, car nous allons adorer Dieu. » Première fois le mot « adorer », il est là, par rapport au sacrifice d'Isaac. C'est quand même fort, hein. Donc ça montre la portée, la puissance, la force de l'adoration. Ça commence par un sacrifice, en fait. Alors on sait qu'avant, il y a déjà eu des sacrifices. Et l'Ancien Testament, c'est une grande partie, c'est justement des sacrifices. On offre quelque chose à Dieu qui nous coûte. On paye, on amène des animaux, on offre des offrandes de blé, toutes sortes de choses, mais qui ont de la valeur réelle, concrète, et on sacrifie tout à Dieu. Isaac, il était prêt à le sacrifier, Abraham. Heureusement, Dieu est intervenu. Nous, on connaît la fin de l'histoire. On dit, ça c'est bien fini, heureusement. Mais il a quand même été jusqu'au bout pour donner tout ce qu'il avait. Et je pense que dans notre vie aussi chrétienne, on passe tous à un moment donné où Dieu nous demande des sacrifices. Ce n'est pas toujours le moment le plus agréable ou le plus facile. Puis on lutte avec Dieu un petit peu. On discute, on dit, ouais, mais Seigneur, tu crois vraiment? Est-ce que c'est toi qui me demandes ça? Est-ce que je dois vraiment lâcher ça ou pas? Moi, je me souviens dans ma vie chrétienne, au début, justement, quand j'étais passionné de musique, je faisais beaucoup de musique, je faisais des études de musique, à un moment donné, Dieu m'a parlé, il m'a dit, est-ce que tu es prêt à me servir sans la musique? Bonne question. J'ai dit, arrière de moi, Satan. Ça ne pouvait pas être Dieu. Hein? Puisque Dieu m'avait appelé dans la musique, il m'avait donné des dons, j'étais motivé, il y a plein de gens qui m'encourageaient là-dedans. Je dis, c'est pas Dieu qui m'a donné, qui me demande d'enlever. Et puis, en comprenant un petit peu les principes bibliques, je me suis dit, ah, peut-être c'est quand même Dieu. Puis après plusieurs semaines de bataille ou d'hésitation, j'ai pu dire, ouais Seigneur, ok, t'es plus important que la musique. J'aime la musique c'est un don que tu m'as donné. Mais si tu penses que je peux te servir mieux sans la musique, alors j'arrête. Je suis prêt. Et pendant une année, j'ai presque plus du tout fait de musique. Je participais encore à l'église, je chantais, mais j'étais plus impliqué, plus dans ce service. Je sentais que Dieu me demandait de me consacrer à lui d'une autre manière. Et après, Dieu me l'a redonné. Alors, c'était pas aussi fort que l'histoire d'Abraham et d'Isaac, mais c'est un peu le même principe, quoi. Et dans nos vies, il y a différentes choses auxquelles on doit renoncer, auxquelles on s'accroche. Et c'est justement les choses auxquelles on s'accroche que Dieu nous demande des fois de lâcher pour voir s'il peut avoir la première place. Et quand il a la première place, alors après, il peut faire beaucoup de choses au travers de nous, hein. Et c'est ça qu'il nous demande tout le temps. La conversion, c'est que le début. C'est après, c'est tout le cheminement spirituel où Dieu nous demande encore des choses. Mais parce qu'il sait que c'est mieux pour nous que qu'on lui fasse confiance, qu'on lui donne tout. Donc Abraham, il l'a fait. Puis ensuite, dans l'Ancien Testament, on a l'histoire incroyable de David, un homme selon le cœur de Dieu, dit la Bible. Et David, ce qui est extraordinaire dans sa vie, c'est que ça a été un chantre, un musicien, un artiste, mais aussi un guerrier, un combattant, un roi. Et il a fait pas mal de choses. Il a fait aussi des bêtises, on connaît ses histoires, hein, difficiles, même graves, terribles. Et en même temps, il a glorifié Dieu d'une manière extraordinaire dans sa vie et il a été un modèle et c'est un modèle qu'on reprend encore aussi beaucoup aujourd'hui dans les églises et dans beaucoup d'endroits. C'est tout ce qu'il a fait dans le temple. Il a organisé la louange en fait. Il est le premier à avoir mis sur pied une louange continuelle, non-stop. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle du tabernacle de David dans ce temple. Avant même de reconstruire le temple, dès qu'il était roi, il avait qu'une idée en tête, il faut que Dieu soit glorifié en Israël. Il savait que c'était Dieu qui l'avait appelé, que c'était Dieu qui lui avait donné don, Dieu qui l'avait aidé à combattre Goliath, à tuer l'ours et le lion, à faire plein de choses. C'est lui qui l'a protégé devant Saül qui voulait le tuer. Donc, il est vraiment très conscient de son Dieu et de ce qu'il doit faire pour lui. Donc, à peine il devient roi, il va chercher l'arche qui était chez les Philistins. L'arche, ça représentait la présence de Dieu. Au début, il le fait un peu trop vite. Il ne le fait pas comme Dieu lui demande. Donc, il y a un accident. Il y a un homme qui meurt parce que ce n'était pas juste comme il l'a fait. Donc, il se remet en question. Il arrête tout. Il se remet devant Dieu. Puis ensuite, il fait à la bonne manière. Il l'amène. Ils font 8 pas avec des lévites qui portent l'arche. C'est plus sur un char. Il fait selon les principes de Dieu. Ils offrent des sacrifices. Puis quand ils arrivent à Jérusalem, c'est la grande fête. Ils dansent, il y a tous les instruments, la musique. Donc tout est bien pensé, bien organisé. Le temple n'est pas encore construit. Hein. Il n'y a encore aucun temple. Il y a juste un endroit. Il dit là, on va mettre le temple. Mais il faut l'arche. Le plus important, ce n'est pas le bâtiment, c'est la présence de Dieu. Comme on l'a chanté ce matin. Et la présence de Dieu, on peut la vivre pas seulement dans un temple, on peut la vivre aussi à l'extérieur. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Église doit comprendre ça. Le bâtiment, c'est un outil, un endroit où on se retrouve pour être ensemble, pour être abrité, pour pouvoir organiser différentes choses. Mais la présence de Dieu, on peut la vivre partout. Et il faut que la louange aussi, elle soit vécue partout. Et David avait compris cela. Et donc, il ramène l'arche. Et ensuite, il installe les Lévites, une tribu entière. Il leur dit, votre rôle, ça sera de louer toujours Dieu. C'est en Chronique 15, 16... Tous ces chapitres décrivent vraiment le travail des chantres, des lévites. Mais à un moment donné, vraiment, c'est dans 1 Chronique 16, verset 4, où c'est l'institution du rôle des lévites. Donc, il installe les chantres et les lévites. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important à vivre dans l'Église aussi, parce que souvent, je ne sais pas comment c'est vécu chez vous, comment vous l'avez vécu dans votre histoire. Moi, au début, j'étais quand même... En guillemets, excusez-moi, c'est pas négatif, mais j'étais qu'un musicien, quoi. J'étais là, ah, t'es là, ben joue. On m'appelait, le piano, il était au fond de la salle. Le président, il était là, puis on disait, on va chanter le 322. Alors, je tournais mes pages, puis je jouais. Pour moi qui étais étudiant en musique, c'était un bon exercice. Mais je m'impliquais pas tellement, c'était de la musique, quoi. C'était un service que je faisais, comme si j'avais été le concierge de l'église. Et puis, tout à coup, on m'a donné plus de responsabilités. On dit, ah, il faut que tu présides la louange. Là, j'ai commencé à avoir un peu peur. Mais moi, je suis un jeune chrétien, je ne connais pas bien ma Bible, je ne prie pas encore des heures, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Et puis plusieurs responsables passent, on dit, oui, il faut que tu le fasses, il faut que tu présides la louange, il faut que tu conduises la louange. On a déplacé le piano du fond de la salle, on l'a mis devant. D'un coup, j'ai commencé à regarder les gens, puis il y avait une autre relation qui s'établissait. Puis les gens regardaient à moi, donc je sentais le poids de la responsabilité. Mais en même temps, l'importance d'amener les gens, pas vers moi, pas vers ma musique, mais vers Dieu. Donc on n'est qu'un outil, les instruments de louange, l'équipe de louange. Et c'est ce que David il dit aux Lévites, en Chronique 16, 4, il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel. Il a dit, votre boulot c'est invoquer, louer et célébrer le Dieu d'Israël. C'est simple, puis en même temps c'est important, c'est sérieux. Et il le fait devant tout le peuple est rassemblé, c'est un moment très officiel. Moment de remise des charges, il leur donne les clés. Vous avez les clés de la louange. Et votre rôle, ce n'est pas de faire 1000 autres choses. Invoquer, louer, célébrer l'Éternel. C'est simple, mais c'est important, c'est sérieux. Et puis ensuite, il leur donne des conseils pratiques. Hein. Ils avaient des instruments de pratique, des luttes, des harpes. Asaph faisait retentir les cymbales, les sacrificateurs sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche. Donc chacun a son rôle dans le groupe de louanges. Il y en a un qui s'occupe de la sono, il y en a un qui s'occupe de la projection, il y en a un qui s'occupe du piano, des chants, etc. Chacun a une place. Puis on le fait en fonction de nos dons, de nos capacités. Et David, il a très bien compris ça. Il y a une structure claire, il y a un responsable. Juste avant, dans le chapitre 15, il appelle Kenania le chef des musiciens parce qu'il était habile ou doué, selon les textes. Hein. C'est dans Chronique 15, verset 22. Donc, Dieu, il nous a donné des dons et il veut qu'on se serve de ces dons pour sa gloire, pour son service. Et à partir de ce jour-là, durant tout le règne de David, la louange ne s'est jamais arrêtée. En parallèle, ils ont construit le temple autour de la louange, autour de l'arche. Mais la louange, elle a commencé, elle ne s'est jamais arrêtée. Et durant tout le règne de David, il y a eu des guerres en Israël, comme il y a eu dans toute l'histoire d'Israël. Jamais l'ennemi a vaincu Israël à ce moment-là. La louange, c'était comme une protection. Et David l'avait bien compris. Que la présence de Dieu qui était là à Jérusalem, dans ce temple, permettait à Israël d'être protégé par Dieu et de continuer de le mettre à la première place. Ensuite, David n'arrive pas à terminer le temple. Il donne à Salomon la mission de le faire. Mais juste avant de le faire, dans 1 Chronique 29, ça c'est un de mes textes préférés, on voit David qui rappelle à tout le peuple le rôle de la louange et l'importance de ce qu'il a fait. Il fait une déclaration de foi et de louange extraordinaire. D'abord, il rassemble tout le monde Ensuite, ils font une offrande, mais immense, une générosité incroyable. Puis ensuite, ils déclarent vraiment qui est Dieu. David bénit l'Éternel, c'est dans Chronique 29, hein, à partir du verset 10-12, comme ça, j'ai plus la référence, mais dans tout ce chapitre 29, David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père, Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité, la gloire. Ça, c'est de la louange. Hein. Il dit tous les mots qu'il peut pour Dieu. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse, la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force, la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, notre Dieu, nous te louons, nous célébrons ton nom glorieux. Déclaration incroyable du roi, hein, c'est le roi. Le roi d'Israël, le chef politique, chef de l'armée et responsable de la louange qui déclare ça à tout le monde. Et puis ensuite, regardez ce qu'il dit. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi comme des étrangers, des habitants, tout comme nos pères, nos jours sur la terre sont comme l'ombre, il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est ta main que viennent toutes choses, nous avons préparé pour toi, pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom, c'est à toi que tout appartient. Et ça il le fait et il le dit après avoir fait des offrandes extraordinaires. Il dit même qu'ils ont donné tellement qu'ils n'arrivaient même pas à compter, tellement ils avaient donné. Et David il donne toute sa richesse. Et en plus il dit mais tout vient de Dieu. Pourtant quand même, c'est le roi d'Israël, quoi. C'est l'homme que Dieu a appelé, c'est l'homme qui était loin, c'est l'homme qui a composé des chants de louange. Il aurait pu dire, ouais Seigneur, t'as vu quand même tout ce que j'ai fait pour toi. Hein. Et voyez, l'humilité de cet homme, après avoir tout donné, il dit encore, mais c'est, tout ce que je te donne, c'est toi qui me l'as donné. C'est grâce pour grâce, quoi. C'est déjà un signe de louange extraordinaire, je trouve. Et puis ensuite, Salomon construit le temple et la gloire de Dieu descend dans le temple. Tout l'Ancien Testament, finalement, c'est basé sur ses sacrifices, sur ses offrandes, sur l'exemple de David, d'Abraham et tous ceux qui ont offert des choses de valeur à Dieu. Puis dans le Nouveau Testament, on arrive à quelque chose d'un petit peu différent. Et la grande différence, vous savez, c'est bien sûr Jésus qui a été le sacrifice ultime. Donc Jésus s'est offert lui-même, il a donné sa vie en sacrifice et du coup, plus besoin de sacrifice. Ça, c'est déjà un changement majeur, vous imaginez. Les Juifs qui ont vécu cette période-là, d'un coup, quand ils découvrent le salut en Jésus, quand ils découvrent l'Église naissante, il n'y a plus besoin d'amener des sacrifices. Pourtant, les Juifs traditionnels continuent. Puis encore aujourd'hui, ils offrent encore, ils continuent. Ils font d'une manière différente, mais ils sont toujours dans cet esprit-là. Et puis là, il n'y a plus besoin. Et puis, on a ce texte de Hébreux 13, verset 15, qui nous dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. » C'est ça le sacrifice du Nouveau Testament, c'est le sacrifice de louange. On se dit, oh, c'est bien plus facile, alors c'est tranquille. Il suffit de chanter, alors c'est bon. Non, il ne suffit pas de chanter. Parce que justement, s'il fait le lien avec le mot sacrifice, c'est que la louange, parfois, c'est un sacrifice. Et je suis sûr que vous qui êtes impliqués dans la louange, vous l'avez tous déjà vécu une fois. Louer Dieu quand tout va bien, c'est facile. Louer Dieu quand on est béni, quand on a prié pour nous, on a un bon travail, des amis, tout va parfaitement bien. Mais dans la vie, ce n'est pas toujours comme ça. Il y a des moments difficiles, il y a des moments de combat, de maladie, de chômage, de relations brisées. Puis on se dit, waouh, et puis je dois aller louer Dieu. Et quand on est impliqué dans la louange, on n'a pas toujours le choix, n'est-ce pas? Ah, demain, je dois aller chanter. Ah, mais j'aimerais mieux que ça soit la semaine prochaine, parce que là, je ne suis pas en forme. Ah, puis après, ce qui s'est passé aujourd'hui, non, je ne vais pas pouvoir louer Dieu. Puis finalement, on fait l'effort, on accomplit notre mission, notre rôle, puis on se dit, ouais, c'est plus dur, mais en même temps, c'est plus fort. Parce que justement, je choisis de ne pas laisser cette situation, cet événement, me voler la louange. Et la louange devient un vrai sacrifice pour mes émotions, pour mes relations, pour ma tête, pour beaucoup de choses. Peut-être pour mon corps, parfois. Mais tout d'un coup, ça porte du fruit, ça a une valeur. C'est une valeur éternelle, la louange. Donc, c'est toujours un sacrifice, la louange. Mais ce n'est plus le même sacrifice que l'Ancien Testament. Mais c'est toujours un sacrifice. Et ce n'est pas pour rien qu'il dit « offrons sans cesse à Dieu ». Ça ne veut pas dire « seulement quand tout va bien ». Chanter quand tout va bien. Ça, ce n'est pas un verset biblique. Mais en toutes circonstances, dans tous les temps, offrez à Dieu le sacrifice de louange parce que Dieu ne change pas. Dieu est digne. Heureusement que Dieu ne change pas, n'est-ce pas? Que Dieu a pris soin de vous même quand vous n'étiez pas très accroché à lui, ou quand vous avez des moments où vous êtes éloigné de lui, où vous l'avez un petit peu repoussé ou rejeté. Dieu ne vous a pas repoussé, ne vous a pas rejeté, ne vous a pas abandonné. Donc, c'est ça qui donne aussi une profondeur, une intensité à notre louange, de pouvoir continuellement lui donner notre louange et puis le faire d'une manière continuelle, comme un sacrifice. Et le sacrifice, c'est confesser son nom. Confesser son nom. Quand on chante des chants, on confesse notre foi, notre croyance, notre espérance, tout ce que Dieu est pour nous. Et des fois, il ne l'est peut-être pas complètement, mais on dit, on sait que c'est la vérité. On proclame des choses qui sont véridiques. C'est pour ça que ce qu'on chante, c'est important, en fait. Et le choix des chants est important. Et je ne chante pas que les chants qui sont à la mode, je ne chante pas que les chants que tout le monde aime, je chante les chants qui me semblent être en accord avec la parole et puis qui proclament et qui confessent vraiment qui est Dieu, parce que c'est ça que Dieu nous demande. Alors on a aussi ce texte célèbre de Colossiens 3, 16-17, qui dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous, exhortez-vous les uns des autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantant à Dieu dans votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur, rendons par lui des actions de grâce à Dieu. Pour tout, en tout, offrez des actions de grâce. Rendez continuellement grâce. Encore une fois, ça montre cette louange continuelle qui ne s'arrête jamais. Même si nous, à cause de circonstances, on arrête parfois, on recommence et on peut toujours recommencer. Mais ce que j'aime dans ce texte, c'est l'idée où il parle de différentes formes de louange. Il dit « chantez ». Encouragez-vous, instruisez-vous. Donc la louange fait aussi tout cet effet-là quand on chante. Mais il parle des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Et en étudiant un petit peu ce texte en profondeur, j'ai vu que les psaumes, en fait, c'était les chants très anciens. Ils chantaient les chants de David. 600 ans après, 800 ans après, ils chantaient toujours des vieux chants. Des chants de leur héritage, des chants de leur histoire. Aujourd'hui encore, on a dans nos églises quelques chants qui sont anciens. Même certaines églises où il y a le recueil de chants, il y a les dates. Moi, j'étais de l'église réformée, j'ai là où j'ai grandi avec mes parents. Et puis, on avait des chants, c'était marqué 1650, 1732, 1800. Tout d'un coup, il y avait un chant de 1920. Waouh, il est récent celui-là. Il avait quand même 100 ans presque. Mais voilà. Donc, c'était les psaumes, c'est les vieux chants de la réforme, c'est les chants de notre histoire. Ça, c'est de la vraie louange. Tout ce qui est après, ça vaut rien, quoi. Dans certaines églises, c'est ce qu'on pense, hein. Puis après, il y a des hymnes. Les hymnes, aujourd'hui, quand on prend le mot hymne, on pense justement aux vieux cantiques. Mais dans le texte ici, dans le contexte, les hymnes, c'était les chants de l'époque. Les chants chantés par des compositeurs qui vivaient, qui étaient encore vivants. Donc aujourd'hui, on a plein de compositeurs de louanges. J'en fais partie, mais il y en a plein d'autres qui composent des chants. On transmet ces chants à l'église et on les chante. Des chants d'aujourd'hui. Alors, il y a des chants d'aujourd'hui qui sont de 2019, 2020, mais aussi des chants de 2000, 2005. C'est encore notre génération, je dirais. Même si pour certains jeunes, 2010, c'est déjà très vieux. C'est encore récent, hein. C'est dans une génération, en Israël, une génération, c'est 40 ans. Donc voilà, depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, c'est encore des chants qu'on appellerait dans ce terme biblique des hymnes. Et puis, il dit encore par des cantiques spirituels ou des cantiques spontanés. Ça dépend des traductions du texte. Ça veut dire qu'il y a aussi des chants qui ne sont pas des chants écrits, qui ne sont pas des chants déjà composés, mais qui sont des chants inspirés ou spontanés. Donc moi, ça m'arrive assez souvent dans la louange, à un moment donné, de me dire, mais j'ai envie de chanter ça à Dieu, mais ce n'est pas dans un chant. Alors je le chante spontanément. Peut-être juste une phrase, il n'y a pas besoin que ce soit un chant complet, avec couplet, refrain, etc. Mais il y a un moment où je deviens spontané dans ma louange, parce que j'ai pas envie d'écrire ou de chanter quelque chose qui est déjà tout ficelé, organisé, programmé. Mon cœur a envie de dire autre chose à Dieu. Et je vois dans ce texte qui dit, prenez tout en fait. Paul exhorte, il dit, prenez les vieux trucs, prenez les trucs actuels, et puis soyez aussi inspirés pour chanter des choses qui ne sont peut-être pas encore là. Et je crois que ça, c'est l'équilibre de la louange que Dieu veut nous donner. Malheureusement, certaines églises, ils choisissent un style et puis ils restent à ça. Les églises, justement, ils veulent que les vieux chants. Il y a des églises, ils veulent que les chants modernes. Puis il y a des églises qui disent, ah non, on ne chante plus rien d'écrit, on est spontané. On est tellement inspiré qu'on ne fait que des chants spontanés. Je crois qu'il n'y a aucun qui a raison, n'est-ce pas? Mais si on trouve un équilibre entre ces styles, et puis qu'on arrive à les mélanger, on va réussir à rejoindre aussi les différents styles, les différentes générations, les différentes personnes. Et puis, le but, c'est pas le style, c'est pas le chant, le but. Le but, c'est fais tout au nom du Seigneur en rendant gloire à Dieu. Des fois, on se focalise sur la forme, sur le style, plutôt que sur le but. Le but, c'est que Dieu soit loué, c'est que Dieu soit glorifié. Si ce chant vous permet de mieux louer Dieu, allez-y. Si au travers de la manière dont vous chantez, dont vous communiquez cette louange, ça va permettre à l'Église d'entrer dans quelque chose de plus intense, plus dynamique, alors faites-le. Et ça peut être avec un vieux chant, ça peut être avec un chant moderne. Le problème n'est pas dans le chant, mais dans l'esprit du chant, dans ce qu'on veut faire et dans la personne qui le communique, qui le transmet. Et puis bien sûr, le Nouveau Testament, c'est aussi, je terminerai avec ça, avec l'Apocalypse. C'est un livre qui fait un peu peur parfois aux chrétiens, parce que l'Apocalypse, c'est un texte, c'est un mot qui a été repris par l'ennemi et puis qui est utilisé dans les films, et puis c'est tout, hein. Et puis on se dit Apocalypse, ça va dire guerre, explosion, etc. Mais l'Apocalypse, c'est un livre de louange. Essayez de lire une fois l'Apocalypse en regardant tout ce qu'il y a au niveau de la louange et de l'adoration. Et ce livre nous donne une perspective. Qu'est-ce qui va se passer ? Ben, on va être dans le ciel, on va être devant le trône de Dieu, et devant le trône de Dieu, qu'est-ce qu'il y a ? De la louange. Et c'est une louange extraordinaire, on nous décrit la louange telle qu'elle va être, avec plein de monde, dit tellement de monde qu'on ne pouvait pas le compter, tellement de bruit, il y a une mer de cristal, donc c'est le dance floor qui brille, il y a des éclairs du tonnerre, donc il y a le light show aussi, hein. Il y a du volume, parce que quand il y a du tonnerre, hein, il y a tout quoi, dans la présence de Dieu. Il y a de la lumière, il y a de la force, il y a de la dynamique. Et puis il y a des gens de toute tribu, toute race, toute langue, toute nation. Pas de séparation. Ce n'est pas écrit qu'il y aura une louange ou qu'il y aura un groupe de louanges ou une église ou une dénomination. On ne nous donne même pas le nom du plus grand chanteur chrétien de tous les temps qui sera là. On ne dit même pas qu'il y a David pour conduire la louange. On dit une foule nombreuse. C'est la foule qui loue Dieu, ce n'est pas un individu. Donc le groupe de louanges, ce n'est pas une personne qui chante bien que tout le monde écoute. C'est la foule qui adore. Donc le but de la louange dans l'Église, c'est que toute la foule, tout le peuple, de toute tribu, de toute langue, toute race, toute nation, adore. Et aujourd'hui, Dieu il fait plein de mélanges de races, de tribus, de nations, avec le monde qui bouge. Et c'est beau de pouvoir louer Dieu avec des gens d'une autre culture, d'une autre race, d'un autre style. Dieu fait ces mélanges-là et ça nous prépare à l'Apocalypse, où il n'y aura aucune différence. Ce que j'aime dans la louange, c'est que Dieu nous met tous au même niveau. Tu peux louer Dieu à côté d'un professeur, d'un concierge, d'un cantonnier, d'un président, d'un ministre, d'un financier. On est tous au même niveau, n'est-ce pas? Dieu nous met tous au même niveau, à genoux devant lui pour l'adorer. Les anciens qui sont là, ils déposent leur couronne, ils posent tout devant Dieu et ils reconnaissent que Dieu est Seigneur. Donc j'aimerais vous encourager avec ça et qu'on puisse tous avoir cette perspective-là. Un jour, on sera tous dans cette position-là, à genoux, déposant nos couronnes, notre réputation, et célébrant vraiment Dieu. Amen. Alors, petite pause. Non, c'est après la pause. Ouais, non. C'est que 11h10. L'exercice, là, c'est encore dans un petit moment, voilà. Histoire de l'adoration de l'Église, voilà, c'est ça mon deuxième thème. Excuse-moi, je suis un petit peu perdu. Donc, l'histoire de l'adoration dans l'Église. Ça va être aussi court, c'est intense, c'est un morceau, un grand sujet. Hein. Alors, je ne sais pas comment l'histoire déjà de votre propre Église, mais si on regarde l'histoire de l'Église plus loin, plus profonde, on voit qu'en fait, la louange, elle a toujours évolué. Parce que, justement, la vie évolue, la culture évolue, le style évolue, et puis la louange, elle s'adapte un petit peu à la culture, parce que le but, c'est qu'on rejoigne les hommes et qu'on puisse permettre aux gens, dans la culture dans laquelle ils sont, de rencontrer Dieu et d'exprimer quelque chose à Dieu. Donc, encore une fois, ce n'est pas le style qui est fondamental, mais c'est que le style qu'on utilise soit comme une langue que les gens peuvent utiliser. Et puis, dans toute l'histoire de l'Église, il y a eu toutes les époques possibles, tous les moments. Donc, on a eu David avec le tabernacle qui a mis tous les musiciens en route. Et puis après, dans l'histoire de l'Église, quand l'Église s'est retrouvée persécutée dans les catacombes, il n'y avait plus d'orchestre, il n'y avait plus beaucoup de musiciens. Ils se sont retrouvés à chanter peut-être sans rien. Dans les actes, ils étaient dans les maisons. Quand on fait la louange dans une maison, on n'a pas besoin de mettre une sonorisation, de mettre une batterie et tous les instruments. Mais on joue, on chante Dieu, il y a peut-être une guitare, un petit synthé, mais autrement, on chante simplement. Autour d'un salon, à quelques personnes, on voit qu'on peut adorer Dieu sans aucun artifice, n'est-ce pas ? Mais après, quand il y a un réveil, quand il y a du monde, quand on commence à se rassembler, et puis qu'il y a des centaines, des milliers de personnes, ben, il faut bien organiser les choses. Et du coup, ça fait de la place pour des instruments. Donc, on met les instruments à nouveau en action, parce que les instruments nous aident, nous soutiennent, nous amènent dans la louange, et puis nous conduisent. Et puis ensuite, ben, le christianisme a pris de l'ampleur, le christianisme s'est installé comme une religion d'État. Donc, toute la musique était concentrée vers Dieu, on officialisait les musiciens et même les grands compositeurs classiques, ils étaient engagés premièrement par l'Église comme chanteurs, comme musiciens. C'est l'Église qui les payait, même Mozart et beaucoup d'autres qui n'avaient pourtant pas une foi très, très forte, mais vu leur talent, ben, l'Église les engageait pour qu'ils servent l'Église. Mais ils se dépêchaient de faire leur service pour aller faire une musique après dans le monde parce que ça ne les intéressait pas vraiment. Ils n'avaient pas une foi vivante. Donc, c'est arrivé un point où la musique a pris tellement d'importance, il a fallu avoir une réforme aussi dans la musique, parce qu'on ne se focalisait plus que sur l'artistique, le talent. Avec les chants grégoriens, c'était tellement sophistiqué, ils chantaient à 12 voix, très techniques, etc., que les gens dans l'église qui étaient ignares, qui n'avaient aucune étude, aucune capacité, ben, ils écoutaient, puis ils ne participaient plus du tout à la louange. Ils disaient, mais on est déconnectés, mais comment est-ce qu'on peut chanter ça? Non, c'était des semaines, des jours de répétition, de travail, tellement technique, que les gens ne pouvaient pas participer. Donc, à un moment donné, ils ont tout enlevé. Ils ont dit, bon, maintenant, on va rechanter des chants plus simples pour que tout le monde puisse participer à la louange. Que les instruments aussi, Calvin, qui n'était pas loin de chez vous, hein, qui a dit, à un moment donné, plus d'instruments. Parce que les instruments sont une manière de nous détourner de Dieu. Ça nous focalise pas sur Dieu. Et puis, on est focalisé sur l'émotion, sur le sentiment, puis on ne pense plus à Dieu. Donc, on chante sans instruments. Puis toute une période de l'Église, on a commencé à chanter a cappella, peut-être, puis après on a ramené peut-être juste un harmonium ou un orgue qui accompagnait les chants. Donc ça a toujours tourné et puis bougé. Et puis maintenant on est dans une époque avec le renouveau de charismatique des années de 1900, 2000, on a eu de plus en plus d'instruments qui sont revenus dans l'Église. Alors, moi j'ai eu la chance de grandir un peu cette période-là. Donc moi j'allais dans l'église réformée, il y avait l'orgue, je jouais de l'orgue au début, j'ai commencé, après le piano, l'harmonium dans certaines églises, puis après ben, dans mon groupe de jeunes, il y avait deux guitares, un piano, un saxophone, et puis on a commencé à amener une batterie, là c'était la grande révolution, parce qu'on nous a dit que la batterie c'était diabolique, puis qu'il fallait pas de batterie dans l'église. Donc il a fallu se battre, il a fallu défendre l'argument, mais est-ce que c'est dans la Bible, c'est pas dans la Bible, mais on voit que dans la Bible il y avait les cymbales sonores, les cymbales retentissantes, les tambourins, donc tous les instruments étaient déjà dans la Bible. En fait, le psaume 150 nous parle de tous les groupes d'instruments. Moi qui étudiais la musique, j'ai vu que en fait, quand on classifie la musique, on dit il y a les percussions, il y a les vents et il y a les cordes. C'est les trois groupes d'instruments. Et tous les instruments se retrouvent là. Et dans le psaume 150, qui est le dernier des psaumes, qui décrit bien la louange finale, il dit, prenez vos cymbales, prenez vos tambourins, prenez vos flûtes, prenez vos harpes. Donc, instruments à cordes, instruments à vent, instruments à percussion. Prenez-les tous. Le but, c'est quoi? Louer le Seigneur. C'est que les instruments sont au service de la louange. On n'est pas là pour impressionner l'assemblée avec une batterie, on est juste là pour dire la batterie va nous soutenir dans le rythme, va nous donner une dynamique qui va permettre la louange va être peut-être plus entraînante, plus puissante, etc. Puis c'est aussi dans notre culture, donc voilà, la batterie s'est installée, puis maintenant on a beaucoup d'églises qui ont un groupe de louange avec plusieurs instruments, je vois ici qu'il y en a, c'est bien, je suis sûr que ça n'a pas toujours été le cas, hein, je ne sais pas quelle année... Bon, les plus vieux ont aussi une petite histoire là derrière. Donc, et puis peut-être que dans 5 ans, 10 ans, ça va encore changer. Moi, je vois maintenant des jeunes qui amènent des ordinateurs, qui amènent des séquences, qui amènent des programmes informatiques, puis qui font la louange avec des synthétiseurs et juste des ordinateurs. Peut-être même pas d'instruments visibles, mais il y a toujours la louange. Moi, ce qui m'interpelle toujours, c'est de dire, est-ce que ça va être au service de la louange ou bien c'est au service du musicien et de son style. Mais avec n'importe quel instrument, n'importe quel style, et par la chance que j'ai aussi de voyager, d'aller dans différents pays, je vois que c'est aussi intéressant d'avoir dans certaines cultures des instruments qu'on ne connaît pas chez nous, ou qu'on n'utiliserait pas parce que ça ne nous parle pas, mais qu'eux, ils utilisent d'une manière très, très dynamique, très réelle, très consciente, parce que c'est leur culture, leur instrument, et puis ils louent Dieu. Même si le son pour nous n'est pas toujours agréable, si vous allez dans certaines cultures africaines ou asiatiques, ou en Inde ou en Chine, ils n'ont pas du tout les mêmes instruments, les mêmes sons, les mêmes sonorisations. Mais tu vois le feu, la ferveur, la passion qu'ils ont dans la louange, tu dis, waouh, ça marche. Il y a une réalité, c'est-à-dire que ces gens ont rencontré Dieu et qu'ils l'expriment avec leur culture, leur style, leurs instruments, et que Dieu est glorifié de ça. Donc, il ne faut pas avoir peur que ça bouge encore, que ça évolue. Mais ce à quoi on doit travailler, c'est toujours au cœur, au but. Pourquoi est-ce qu'on change? Pourquoi est-ce qu'on évolue? Est-ce que ce changement va nous permettre de mieux adorer Dieu ou pas? Puis ça dépend toujours de la personne, finalement. La personne qui conduit, qui préside, qui dirige, puis ensuite, bien sûr, aussi de l'assemblée, puis qui comprenne. J'ai toujours cette question qui me revient souvent dans les séminaires. Il y a trop de chants nouveaux. Vous n'avez jamais eu cette question, vous, hein? Non. Mais parce que c'est vrai, il y a tout le temps des chants nouveaux qui arrivent dans l'Église. Et puis, je me suis posé cette question. Même moi, j'ai argumenté avec Dieu. J'ai essayé de convaincre Dieu pour lui dire, mais écoute, Seigneur, franchement, il y a trop de chants nouveaux. Chaque fois qu'il y a un chant nouveau, il faut l'apprendre, il faut le répéter. Ensuite, il faut l'apprendre à l'assemblée. Puis, ils ne sont pas toujours contents de l'apprendre parce que c'est nouveau. Puis, ce n'est pas dans l'habitude. Et puis, on connaît pourtant ce chant-là qu'on chantait déjà à la campagne de Billy Graham en 1965. Il était magnifique, pourtant. C'est vrai. Mais en fait, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais quand il y a un chant nouveau, tout à coup, on dit, waouh, j'ai jamais chanté ça, mais pourtant, c'est beau, c'est fort. Qui c'est qui l'a écrit? J'ai l'impression qu'il existait déjà, puis non, il n'existait pas, il vient d'arriver. Puis en fait, c'est la vie de Dieu qui se communique, comme quand il y a un nouveau membre dans l'Église, ou une nouvelle personne qui s'implique, qui sert, c'est une fraîcheur, il y a quelque chose de beau dans cette nouvelle personne. Comme un nouvel enfant qui arrive dans une famille, chacun a sa place. Donc je crois, le chant nouveau, ça nous montre qu'il y a la vie. Ça nous montre que Dieu est à l'œuvre, et que Dieu n'est pas fatigué, n'a toujours envie de nous apporter des nouvelles choses, en fait. Et puis ce qu'il donne aux hommes et aux femmes qui sont là sur la terre, eh bien, il l'exprime à leur manière. Et moi-même, je reçois des chants, je compose des chants, des fois je dis, ah, encore un chant nouveau que je vais devoir apprendre. Ça me demande un effort de plus pour moi et pour le communiquer. Puis en même temps, chaque fois, je vois que ça porte du fruit et que ça touche des personnes d'une autre manière parce que ça fait partie de la vie de Dieu, de la créativité de Dieu, de la création de Dieu. Donc n'ayez pas peur de l'évolution. N'ayez pas peur du changement. Le changement nous fait toujours peur parce qu'on aime bien nos sécurités, nos habitudes. Puis la louange, c'est souvent un petit peu le domaine dans lequel ça se reflète le plus. Si je vais dans une église et que je vais la visiter 10 ans après, que je vois qu'il n'y a rien qui a changé, je me dis c'est un peu bizarre quand même. Qu'il y a toujours exactement les mêmes personnes, qu'il n'y a rien qui a changé dans la salle, qu'il n'y a rien qui a changé dans les chants, dans la prédication, je me dis c'est dommage quoi. Ils sont figés à un moment. Alors que Dieu, il est en train d'avancer, Dieu est en train de bouger, Dieu est en train de créer, Dieu est en train de donner des nouvelles choses. Donc, ouvrons notre cœur, notre esprit, notre pensée pour entrer dans les choses nouvelles que Dieu a. Et la louange, c'est un des signes qui démontre cette chose-là. Alors, je ne dis pas que le but, c'est de faire que des chants nouveaux, puis que de suivre une mode, etc. Mais d'être ouvert à ce que Dieu veut faire et que ça se manifeste de différentes manières dans l'Église, de manière concrète. Donc, dans toute l'histoire de l'Église, il y a eu de l'évolution, il y a eu des changements. Et rassurez-vous, je ne sais pas si ça vous rassure, ça va encore changer. Parce que le changement, ben c'est fait pour changer, en fait. Et puis, quand on a des enfants, quand on a une famille, on voit que ça évolue, que ça change. Aussi dans l'école, dans la culture, dans la société, tout change. Donc, si l'Église, on ne change pas, on est déconnecté de ce monde-là. Et on doit apprendre à évoluer, mais en restant connecté à Dieu. On ne change pas pour changer, on change parce que Dieu nous pousse. Dieu nous fait bouger, Dieu nous sort nos sécurités, élargit notre esprit, élargit notre cœur, et l'Église doit le faire aussi. Donc, je vous encourage là-dedans, et j'espère que ça pourra vous aider à porter du fruit, et puis à connecter, et puis à toucher aussi cette génération qui est autour de vous. Voilà, amen, pour cette partie.